Bienvenue dans notre émission Onde du Vivre Ensemble, une émission réalisée dans le cadre du projet Onde du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration.
En ce mois de janvier, nous parlons des libertés avec les 50 ans d'indépendance de l'Algérie. Vous allez tout de suite retrouver une émission dédiée à ce thème.
Alors, comme invité pour nous parler de cette question de l'actualité, qui est l'Algérie, nous avons invité M. Mohamed Alem. Mohamed Alem, bonsoir. Vous êtes le consul d'Algérie de Bordeaux.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers auditeurs. Et à l'occasion, bonne année, meilleurs voeux pour les peuples français algériens.
Merci beaucoup, monsieur le consul d'Algérie. Nous avons invité aussi monsieur Kenzi, qui est le président de l'association QAB, c'est-à-dire le Cercle des universitaires et artistes algériens de Bordeaux. Bonsoir, monsieur Kenzi.
Bonsoir.
Et nous avons aussi invité monsieur Rachid Chetab, qui est président de l'association D'une culture à l'autre. Bonsoir, monsieur Chetab.
Bonsoir.
Donc voilà, donc pour planter le décor, on va revenir évidemment sur ce 50e anniversaire de l'indépendance. L'Algérie célèbre 50 années d'indépendance. Les célébrations officielles du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, prévues sur une année, ont commencé cet été, le mercredi 4 juillet 2012. Et dans la soirée, le coup d'envoi a été donné dans la station balnéaire de Sidi Fredj, à l'ouest d'Alger, lieu historique du débarquement des Français en 1830. Les festivités ont débuté notamment avec un spectacle géant, inspiré de l'histoire du pays, donné en présence du président Abdelaziz Bouteflika, suivi de l'hymne algérien et de spectaculaires feux d'artifice et concerts à travers le pays. Décidément, excusez-moi, 50 années d'indépendance pour l'Algérie. Et oui, le 5 juillet 1962, le drapeau algérien flottait sur l'ancienne préfecture d'Alger, devenue le siège de l'exécutif algérien. La ville était en liesse, les Algérois chantaient et dansaient dans les rues. L'indépendance était proclamée officiellement. 4 jours plus tôt, le 1er juillet 1962, la population s'était prononcée à 99% pour l'indépendance au cours d'un référendum d'autodétermination venu clore la période de 4 mois après la signature des accords d'Évian. C'était la fin officielle d'une guerre de 8 ans, la guerre d'Algérie, un conflit meurtrier qui entraînait entre 300 000 et 600 000 morts, selon les sources, les historiens, les responsables politiques, encore aujourd'hui, n'ont jamais pu s'entendre sur un chiffre consensuel concernant les victimes de ce conflit, véritable traumatisme qui a bouleversé le destin de l'Algérie et précipité la chute de la 4e République française. L'Algérie recouvrait enfin sa liberté après 132 ans de colonisation. La présence française avait débuté en 1830 avec un débarquement sur les côtes des Barbaresques et la plage de Sidi Fredj. 37 000 soldats répartis dans 675 bâtiments venus à la conquête de l'ancienne possession ottomane. Le 5 juillet 1830, Alger était prise. Un siècle et 32 années plus tard, la ville était libre et le pays s'émancipait de la tutelle française. Le 29 septembre, Ahmed Ben Bella prenait la tête du gouvernement et deviendra le premier président de l'Algérie un an plus tard. Le chef de l'État français, François Hollande, a déclaré le mercredi 19 décembre 2012, au premier jour de son voyage d'État en Algérie, que ce voyage était nécessaire et marquait le temps d'un nouvel âge entre les deux pays, 50 ans après l'indépendance algérienne. Le voyage d'État est dans le protocole le degré le plus élevé des visites à l'étranger. Il se distingue ainsi du voyage officiel, du voyage de travail ou encore du voyage privé. Il signifie la visite de l'État français à un autre pays, ainsi qu'à son peuple, d'où un certain faste. Et ce mercredi, le premier jour de la visite, François Hollande et une importante délégation, près de 200 personnes, ministres, parlementaires, patrons, intellectuels, ont été accueillis sur le tarmac à Alger et avec les honneurs par le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Alors, difficile de dire ce qui grippe le plus dans ce moteur des relations franco-algériennes, placé depuis l'indépendance de l'ancienne colonie sous le signe de la passion conjuguant amour et haine. Tout de même, la France est le premier fournisseur et le premier acheteur de l'Algérie, ce qui témoigne d'un lien très étroit, pourtant régulièrement remis en cause. Dans le cadre de ce voyage d'État, François Hollande a prononcé un discours très attendu devant les deux chambres réunies du Parlement algérien. Et ce discours, au-delà de la démonstration publique des liens entre les deux pays, a permis de déchiffrer au moins 4 enjeux majeurs dans les relations entre les deux nations, à savoir l'enjeu de la mémoire, mais ce n'est pas le seul, l'enjeu évidemment des accords économiques, mais aussi les visas, et enfin le terrorisme avec le dossier malien en fond. Donc peut-être avant de revenir sur ce voyage d'État hein, du président François Hollande en Algérie, revenir sur ces 50 ans d'histoire depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis 1962, en évoquant, en égrenant avec vous hein, quelques dates, à savoir avec vous, monsieur le consul, et vous, responsable associatif, et chacun peut rebondir sur ces dates, on va les égrener ensemble. Donc on le disait, hein, 5 juillet 1962, point final à la colonisation française. En 63, Ben Bella, président, élu président. 65, coup d'État, président Ben Bella est destitué à la suite d'un coup d'État mené par le colonel Wari Boumediene. 1967, une date importante pour l'Algérie aussi, la fin des essais nucléaires français. 1971, hydrocarbures, la richesse en sous-sol, donc c'est l'année où la nationalisation des hydrocarbures a été effective en Algérie. Et aussi, le gaz naturel, le pétrole, ont été exploités par la Sonatrach, créée donc en 63. Hein. En 1976, le FNL est de plus en plus fort. Hein. En 1978-79, mort de Boumediene. En 80, on se rappelle du printemps berbère. 1981, un ancien président français, François Mitterrand, était à Alger. Et 1984, le code de la famille évolue en Algérie. On se rappelle que effectivement, l'Assemblée nationale algérienne adopte le code de la famille largement inspiré de la charia. Le 5 octobre 88, soulèvement populaire, qui suivit du 10 octobre, pareil, soulèvement populaire. 1989, multipartisme et islamisme. Une nouvelle constitution introduit le multipartisme. 5 juin 1991, on s'en rappelle aussi, c'est le processus électoral qui a été stoppé. On passe en janvier 92 où M. Boudiaf est assassiné. 1994-1995, on peut se rappeler ces temps-là qu'on appelle encore le temps des tueries. 1996-1997, les partis religieux sont interdits. Hein. 1999, on peut dire que c'est l'année de la concorde civile. 2001, printemps noir de nouveau en Kabylie. 2002-2003, libérateur des fondateurs du FIS. 2004, multimandat pour Bouteflika, hein, réélection d'Abdelaziz Bouteflika le 8 avril, avec plus de 83% des suffrages exprimés. Et il parviendra à se faire élire une troisième fois en 2009. 2005, l'amnistie, alors une charte pour la paix et la réconciliation nationale, est approuvée par référendum à 97% des voix en septembre. Environ 2200 prisonniers accusés d'actes terroristes sont libérés. 2007, du GSPC à AGMI, le FLN remporte les législatives en 2007. Les attentats terroristes se poursuivent, revendiqués par le GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, rebaptisé Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, le fameux AGMI. 2009, des émeutes. Toujours en 2009, tension entre l'Égypte et l'Algérie suite à un match de football. 2010, un scandale qui éclabousse notamment la Sonatra, hein, qui est chargée de l'exploitation des hydrocarbures, scandale de corruption, tout comme le secteur des travaux publics. 2011, fin de l'état d'urgence, hein, qui était en vigueur depuis 1992, donc une date importante pour le peuple algérien. Et 2012, mort de Ben Bella, le premier président de l'Algérie, en cette année où on a célébré, et on continue d'ailleurs à célébrer, des deux côtés de la Méditerranée, le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Alors, je ne sais pas, avec vous, monsieur le consul, messieurs les responsables associatifs, que ce soit pour QAB ou d'une culture à l'autre, si vous vouliez revenir sur quelques dates qui vous paraissent des plus importantes pour cette histoire, on va dire, de cette jeune nation qui a aujourd'hui 50 ans et dont on célèbre encore l'anniversaire de son indépendance, revenir sur des dates qui vous paraissent importantes pour cette histoire, on va dire, contemporaine de l'Algérie.
Je remercie à cette occasion tous les responsables de la radio O2 qui nous ont permis aujourd'hui d'être présents pour discuter d'un sujet très important qui est l'Algérie, ou plutôt les relations algéro-françaises. Bien sûr, l'année 2012 clôture 50 ans d'indépendance de notre pays. La déclaration d'indépendance a été faite le 5 juillet 1962. Donc, c'est 50 ans. 50 ans entre l'Algérie et la France, c'est beaucoup de rapports humains, de rapports économiques, de rapports historiques. Les péripéties de ces rapports se caractérisent comme des relations entre deux sœurs qui ne se voient pas toujours en face, mais il y a des hauts et des bas dans ces relations. Les dates qu'on peut retenir de ce cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, bien sûr, la date de 1962, ce que nous appelons, nous, le redressement révolutionnaire de 1965, la nationalisation des hydrocarbures, le printemps algérien de 1988, les visites des présidents français en Algérie. Je crois que vous avez bien fait de signaler la visite de M. Mitterrand, mais avant M. Mitterrand, je crois en 1974 exactement, il y avait la visite de Giscard d'Estaing. Bien sûr, les années 70 seront caractérisées par les nationalisations des hydrocarbures, mais aussi par la crise énergétique qui a secoué le monde, notamment le monde occidental, vu que les pays arabes étaient des fournisseurs de gaz et de pétrole. Voilà grosso modo ce que je peux retenir de ces cinquantenaires. Je laisse tout de suite la parole aux autres invités en espérant développer chaque date et chaque événement dans son contexte.
Très bien. Merci. Alors, Monsieur Kenzi, Monsieur Chetab, si vous voulez reprendre la parole sur cette histoire, cette histoire de cette jeune nation qu'est l'Algérie, finalement, qui n'a que 50 ans. Hein. Bon.
Merci. Moi, je, en tant qu'universitaire, en tant que bon, Algérien universitaire ici, je pense que c'est ce content de relation entre l'Algérie et la France, c'était des hauts et des bas, et beaucoup de malentendus, des non-dits. Et il y a eu trois périodes, je pense. Il y a la première période de 62 à 65, donc l'État algérien, nouvellement indépendant, avec toutes les conséquences qui découlent, et le problème de la démocratie, ce qui fait qu'il y a eu un coup d'État de 65 du colonel Boumediene. Donc, de cette période-là jusqu'à 78, le décès du président Boumediene, cette période-là, c'est une période riche, malgré il y avait ce passage était obligé pour l'Algérie.
Oui, si j'ai bien entendu les mots de Monsieur le Consul, on parle de période de redressement hein, oui, à ce moment-là.
C'était, j'ai dit c'était obligé parce que c'est cette période où l'Algérie, le régime, il a construit une industrie industrialisante. C'est l'un des pays phares du tiers-monde avec cette politique. Donc, et actuellement, tout ce qui a été construit en temps de Boumediene, mais c'est les conséquences. On parle de le Hadjar, on parle de Darzeu, on parle des hydrocarbures et la nationalisation avec le top en 1971. Donc, et en cette période-là, toujours la politique, la relation entre la France et l'Algérie était timide, était voire dire conflictuelle. Parce que la guerre d'Algérie, qui c'était une guerre, et que l'État français n'a pas reconnu. Il disait toujours que ce sont des événements d'Algérie.
Oui, on a eu du mal à prononcer le mot guerre jusqu'à peu de temps. Oui. Finalement, ça remonte quoi ? Il y a une dizaine d'années où on commence à dire guerre d'Algérie. Jusqu'à présent, jusqu'à cette période-là, on parlait toujours des événements.
Les événements d'Algérie. Donc, effectivement, il y avait ce blocage. Et maintenant, avec le président Hollande, donc, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais on tourne la page. On veut construire l'avenir. Il y a plusieurs générations qui sont passées. Et ces générations-là, donc, ils veulent tourner la page.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la population de l'Algérie, je parle sous votre autorité, bien sûr, monsieur le consul, et puis la vôtre également, il y a pratiquement 70% de la population qui a plus de 40 ans, qui a moins de 40 ans, donc qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie, finalement, quoi.
Effectivement. Effectivement. Donc, cette population, donc, on n'oublie pas, mais on tourne la page, et on voit avancer. Donc, et là, on sait content si on fait le bilan, il est mitigé. On ne peut pas dire que voilà, l'Algérie, en principe, les années 70, était bien placée que par rapport à d'autres pays européens, économiquement et la matière grise.
Oui, aujourd'hui, quand on regarde un peu le trésor, le budget algérien, on s'aperçoit qu'il pourrait être bailleur presque au FMI, comparé à certains pays, je pense à la France notamment. Hein. On parle de beaucoup de millions dans les caisses. C'est un pays riche aujourd'hui, l'Algérie. On est bien d'accord. Hein.
Bien sûr.
Et si vous dites que c'est grâce à ces politiques menées dans les années 70, évidemment.
Oui, effectivement. Et actuellement, c'est mitigé parce qu'avec tous les potentiels qu'on a eu, ou qu'on a, l'Algérie, potentiel économique, potentiel intellectuel, et vous n'avez pas parlé de l'essor de l'enseignement, l'éducation. Mais l'éducation, bon modèle, l'éducation, l'éducation, c'était le point fort du président Boumediene. Il faut reconnaître. Bon, il y avait un certain régime, entre parenthèses, dictature, mais il faut reconnaître. Moi, j'ai fait mes études pendant cette période-là.
Oui, mais tu pas parti unique.
Oui, bon. Oui. Mais il y avait ils ont mis le paquet sur l'enseignement. Les universités, ouais. Ils ont fait le paquet. Bon, après la période Boumediene, donc on sait ce qui s'est passé. Et puis l'économie était, l'Algérie elle-même était dans un environnement, un autre environnement. Donc la chute du mur de Berlin. Et puis toutes les conséquences, la chute du prix du pétrole et toutes les politiques qui découlent après. Donc l'Algérie était à un moment donné très tributaire des dettes qui asphyxient l'Algérie. Était obligé de négocier et de vendre certaines usines au dinar symbolique. Et actuellement, ces dernières décennies, c'est normal, c'est grâce au pétrole que l'Algérie est parmi les pays, le seul pays qui n'a pas de dettes. Ça veut dire beaucoup de choses.
Bien sûr, surtout par les temps qui courent. Hein, on a envie de dire.
Ça veut dire beaucoup de choses.
Vous voulez apporter un complément, monsieur le consul ?
Oui, je voulais insister sur deux éléments, je crois. Le premier, nous avons hérité une situation très difficile depuis 1962. La raison essentielle pour laquelle l'Algérie a opté pour une économie dirigiste centralisée, basée sur surtout l'aspect humain et social.
On peut dire d'inspiration marxiste à
l'époque. Marxiste, oui. Nous disons de gauche de préférence, parce que si on intègre quelques concepts de notre culture, de notre religion, on est peut-être loin du marxisme-léninisme, mais je dirais une conception de gauche, basée sur surtout le côté social, la gratuité de l'enseignement.
La prééminence absolue de l'État.
Oui, bien sûr, l'État était interventionniste à travers toutes les actions commerciales, économiques, et conformément aussi à une politique basée sur la planification. Ça, c'est le premier point au niveau économique. Donc, nous étions dans une économie centralisée. L'État intervient partout, omniprésence de l'État. Le deuxième point essentiel, je reviens sur ce qu'a dit M. Kenzie, c'est la gratuité de l'enseignement. Un des rares pays dans le monde, dans le tiers-monde, dans le monde arabe, qui a fait cette politique de l'école primaire jusqu'à l'université. Et nous avons aujourd'hui les résultats. Donc l'université algérienne était ouverte aussi bien aux riches qu'aux pauvres. Et c'était l'occasion pour les enfants issus du prolétariat de faire leurs études parfois très poussées. Malheureusement, on n'a pas su garder chez nous ce potentiel de jeunesse, ce potentiel d'étudiants formés, etc., qui font aujourd'hui le bonheur de plusieurs
d'autres
sociétés,
pays,
aussi bien au Golfe, dans le monde arabe, que dans l'Occident, les États-Unis, le Canada, etc. Nous avons également, ces universités ont pu former des ingénieurs, ont pu former des médecins. Par malheur, ils viennent chez nous dans le cadre d'une expertise étrangère. C'est difficile d'accepter ça, mais comment faire venir cette masse, cette compétence ? L'Algérie est en train de réfléchir sérieusement pour asseoir une politique susceptible de mettre en place le contexte. Il ne faut pas amadouer ces ingénieurs et ces médecins, chacun, en ce qui le concerne, mais surtout créer en Algérie l'environnement favorable pour faire venir toutes ces compétences. Le deuxième élément. Le troisième élément, comme vous le savez, l'Algérie se situe dans une zone géopolitique qui influe les deux rives de la Méditerranée, qui influe bien sûr une communauté qui est en face, dans l'autre rive, et également sa propre région qui est l'Afrique du Nord. Donc tous les problèmes qui ont vécu ces pays. Je peux évoquer le différent des frontières entre l'Algérie et le Maroc au lendemain de notre indépendance.
Bien sûr.
Je peux également évoquer avant 1962 les événements de Saqiyat Sidi Youssef entre la Tunisie et l'Algérie. C'est vous dire que l'Algérie est restée très sereine dans ses positions par rapport aux grands axes de la politique étrangère. Nous avons longtemps lutté dans le cadre des mouvements de libération nationale pour la libération de l'Afrique. Et pas mal de pays qui résistaient au joug colonial. L'Algérie, à travers ses positions des années 60, je crois, elle a déjà commencé à les payer, surtout durant les années 80 et les années 90. J'espère que nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Cette embellie financière que vous évoquez est venue peut-être dans un contexte marqué par une crise économique et financière internationale. Je crois que l'Algérie, je ne dis pas qu'elle est à l'abri, mais cette embellie va nous permettre d'accroître notre effort économique et notre effort en direction de l'éducation nationale surtout.
Paradoxalement, on parle de cette manne, hein, cette richesse que détient aujourd'hui l'Algérie, de ses choix aussi stratégiques. Et on parle aussi d'un peu plus d'un million de pauvres, de personnes en situation de pauvreté vraiment en Algérie. Et notamment aussi un problème qui dure depuis des années, une pénurie de logement. Vous me direz, ce n'est pas le seul pays où il y a une pénurie de logement. On est bien placé en France aussi. Mais alors là, est-ce que les Algériens aujourd'hui, en 2013, est-ce qu'ils peuvent avoir un petit peu d'espoir à ce niveau-là, en termes de croissance de leur pouvoir d'achat demain, en termes de pouvoir trouver un logement plus facilement? On sait que souvent les familles s'entassent à plusieurs générations dans des petits logements. Alors est-ce que ça, c'est des choses que, par exemple, la diaspora ici ou les Algériens qui vivent à Bordeaux, c'est des choses qui font remonter ou
le point essentiel pour moi, pour ma génération, donc moi je suis un Algérien, je suis né et grandi en Algérie jusqu'à les années universitaires. J'ai quitté l'Algérie en 1996 suite à ces événements-là. Et aussi, comme tous les jeunes de mon époque, de mon âge, de ma génération, ont cherché à trouver une situation. En fait, on cherchait une vraie situation pour la jeunesse.
Monsieur Chetab, président de l'association d'agriculture
à l'autre. Merci beaucoup. Au fait, la richesse de l'Algérie, la première richesse pour moi, en tous les cas comme toute ma génération, c'est sa jeunesse. On a bien dit, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a 75% de la population algérienne, ils ont moins de 40 ans. Donc c'est une richesse considérable qu'il ne faut pas l'oublier. À travers ces années-là, depuis 62 à nos jours, et on entend dans les radios, on entend de la part des politiques, de la part des journalistes, de tous les domaines économiques, sociaux et tout ça. Mais j'ai l'impression, en tout cas, pour moi, qu'on oublie de parler réellement de la jeunesse algérienne. C'est la vraie richesse d'un pays, comme tous les pays du monde. Notre vraie richesse, c'est la jeunesse.
Avec un fort taux d'éducation, ce qui a été rappelé.
Il y a eu tout un travail de l'éducation par les gouvernements successifs en Algérie. Et malheureusement, les années 70-80, il y avait une situation très, très délicate et difficile pour les jeunes. 88, c'était une année où la jeunesse a affirmé sa présence, a donné une voix réelle dans les rues, on l'a vu à travers des événements qu'on peut évoquer.
Alors certains disent que le printemps arabe a commencé en Algérie, parce que d'autres disent qu'il n'y a pas eu de printemps arabe en Algérie.
Oui, et certains Algériens disent, mais en 88, c'est chez nous qu'il a commencé.
Je fais partie de ces gens qui disent que le printemps arabe a commencé réellement en Algérie en 1988. Et
c'était l'automne. Hein.
C'était l'automne chez nous.
D'accord, c'est pour ça qu'on retient moins le printemps. Voilà. Alors.
Le mois d'octobre était très important. La jeunesse, à ce moment-là, a dit haut et fort, a demandé tout simplement à tous les gouvernements, au gouvernement algérien de l'époque, et continuer à le faire, a demandé au gouvernement de mener un réel travail sur la jeunesse et orienter le regard sur la jeunesse et la situation de la jeunesse algérienne. Parce que les jeunes, on doit avoir un système scolaire d'éducation pratiquement bien ficelé, mais si la situation sociale de la jeunesse n'est pas établie, n'est pas clair.
Vous avez pour avoir des diplômes s'il n'y a pas d'emploi.
Que les diplômes ne servent pas à grand-chose si le tissu social autour n'est pas développé, n'est pas élargi, n'est pas clair. Pour les jeunes Algériens, il n'était pas clair. Il y avait le problème de logement, problème de chômage, problème de structure dans les villes algériennes, donc, qui ne permettaient pas aux jeunes Algériens de se développer réellement et d'avoir un regard et d'avoir une participation à ce qui se passe dans son pays. C'est ce que nous réclamons, nous, les jeunes Algériens, c'est qu'on demande à nos gouvernements, le gouvernement algérien et tous les gouvernements des pays autour qui nous ont accueillis, hein, dans nos domaines, ici en France notamment, c'est de nous laisser la voie libre pour qu'on puisse s'exprimer réellement et participer, qu'on soit des acteurs réels sur la scène politique, sociale et économique, en premier en Algérie et aussi dans les autres pays qui ont une forte communauté algérienne, qui participent pleinement dans l'évolution et dans la vraie vie. Par exemple, ici en France, on participe parce qu'on travaille, on est dans les entreprises, on participe dans les associations, on participe à un certain développement, mais on aimerait aussi qu'on nous donne la vraie voie, hein, la voie de participer, la voie d'exprimer et aussi de montrer que la jeunesse algérienne ne dort pas. La jeunesse algérienne n'attend que ça, cette ouverture-là qui va lui permettre de participer réellement et de participer au vrai changement en Algérie, qui est le changement qui va orienter le pays vers une voie de jeunesse.
Bon, on reviendra sur les problèmes de visa concernant cette jeunesse sur la deuxième partie de l'émission d'ici 5 minutes concernant le voyage d'État du président François Hollande. Mais je vais passer la parole à mes confrères. Donc il y a Yann Bouffin, Hugo Hamès et Malika qui veulent prendre la parole.
Oui, donc Malika Wada, bonsoir. Vous parliez justement de la jeunesse. Est-ce que vous sentez qu'il y a des évolutions, depuis quelques années, pour la jeunesse, des évolutions de la part du pouvoir, en fait, de la manière dont il traite la jeunesse en Algérie, hein. Est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que les jeunes ont plus la possibilité de s'exprimer?
La première évolution pour moi concernant la jeunesse algérienne, c'est on lui a donné la parole depuis les années 80. On a laissé la jeunesse algérienne, on l'a donné la parole. Elle peut s'exprimer maintenant à travers un tissu social, associatif, dans la participation dans toute activité, à travers les écoles, même dans la rue, tout simplement.
Il y a quand même des choses qui ont changé. Dans la rue, on peut critiquer ouvertement le président, la politique du gouvernement.
On peut critiquer, chose qui n'existait pas ou très peu avant pour la jeunesse de ma génération.
Aujourd'hui, c'est possible.
Aujourd'hui, c'est possible. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très positif parce que ça permet...
c'est une question que je pose.
Il y a des garde-fous, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout critiquer.
Pas tout dire non plus, d'accord.
Mais non, on ne peut pas tout dire, pas tout critiquer. Bon, je laisse la...
Oui, Yann Bouffin et Hugo Hamès aussi.
Non, simplement, j'allais abonder dans votre sens, c'est que... On peut en effet discuter comme on discute là en disant bon voilà les bienfaits, c'est la dictature boumédienne finalement a amené, on connaît tous ces arguments, je veux dire bon, une dictature qui sauve son peuple de la faim, finalement on peut toujours lui trouver quelques valeurs positives, mais ça reste tout de même, ça pose le problème. Et quand j'entends dire que la jeunesse algérienne est la richesse du pays, c'est vrai, mais c'est aussi une bombe à retardement. Parce que de quoi on parle là finalement? Quand on dit la jeunesse, il faut lui donner l'occasion de s'exprimer. Moi je suis désolé, mais quand je vois la jeunesse algérienne s'exprimer, j'ai pas l'impression que ça se passe toujours très bien quand même. C'est par le biais d'émeutes. Hein. Là on n'a pas du tout parlé de la grande difficulté, la montée de l'islamisme, comment le pouvoir algérien était amené à le traiter.
Alors c'est vrai que les partis religieux sont interdits maintenant en Algérie, mais on a l'impression qu'une islamisation de la société est possible.
Et quel était le rôle de la jeunesse par rapport au mouvement islamiste qui était loin d'être
interdit? Je crois, excusez-moi.
Mais ce que je veux dire, c'est que la question de fond, c'est quoi? C'est vous dites, bon, il faut essayer de faire revenir une élite, il faut essayer de faire en sorte que la jeunesse puisse s'installer, se développer, porter ses projets d'avenir.
Tout à fait.
Mais ça pose quoi comme problème? Il faut revenir au problème de fond, c'est-à-dire qui détient réellement le pouvoir en Algérie? Est-ce que c'est véritablement une démocratie? Est-ce qu'il y a redistribution des richesses? Aux trois questions, non.
Ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire, puisque la jeunesse en Algérie, c'est la première richesse pour moi, en dehors de tout ce qui est richesse matérielle, ça c'est quelque part, pour moi en tout cas, et la jeunesse de ma génération, c'était secondaire. Un pays riche avec ses comptes bancaires remplis à bord, si les jeunes à côté n'ont pas grand-chose pour se développer réellement et pour mener une vie tout simplement comme toutes les jeunesses du monde, ou du moins du monde le monde occidental est développé, ça ne servait pas à grand-chose et ça ne servira pas à grand-chose. Ce que je voulais dire par là, vous avez évoqué le problème de l'islamisation. L'islamisation, attention, faut pas, pour moi en tout cas, c'est facile, c'est faire prendre ce raccourci-là, dire que la jeunesse, c'est une bombe à retardement, il y a l'islam derrière, il y a ces groupes islamistes qui vont les manipuler.
Je n'ai pas dit ça. Hein.
Non, c'était pas par rapport à votre intervention-là, c'est dans l'ensemble, on a l'impression de cette réflexion-là. On a l'impression de dire que la jeunesse algérienne, elle est menée par l'islamisation et elle est que dans cette voie-là et elle ne fera pas autre chose. Non, la jeunesse algérienne était dans un contexte social très compliqué des années 70, 80, 90, avec le chômage, crise de logement et tout le reste. Donc, un jeune qui n'a pas autour de lui une structure vraiment cadrée, une structure réelle, matérielle et sociale, ne peut rien faire. Donc, c'était la première réclamation, c'était ça. Balayer autour de la jeunesse tout ce qui était compliqué, tous ces obstacles-là, pour la laisser s'exprimer. L'expression de la jeunesse, c'est dans l'évolution. Un jeune dans son pays, quand il évolue, quand il est serein, il va pouvoir toucher de près tous les domaines économiques, social, politiques et autres. Et là, il est serein, donc il va pouvoir avoir une réflexion, il va pouvoir y participer réellement à ces choses-là.
Et se sentir partie prenante de la société, quoi.
Tout à fait, parce que c'est le socle de la société, c'est la jeunesse.
En même temps, quand on regarde le pouvoir politique, ce n'est pas un pouvoir politique jeune, loin de là.
Le pouvoir politique, de toute façon, quelle que soit sa position, quelle que soit sa réflexion, le pouvoir politique, comme tous les pouvoirs dans le monde, à travers les temps, le pouvoir, il arrivera à un moment donné où il va regarder cette jeunesse-là, il va regarder sa société, parce qu'il gère une société. Donc quand on gère une société, on gère sa jeunesse et ses problèmes. Donc, à un moment donné, puisque ces jeunes-là réclament leurs droits et réclament leur liberté, l'expression et le reste, il va devoir, ce pouvoir-là, il va devoir les regarder réellement et leur donner la chance et la voix pour y participer réellement dans la société.
Malika Wada.
Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, justement. Est-ce que, justement, le fait de donner le pouvoir à la jeunesse, enfin, autrement plus... plus de marge de manœuvre à la jeunesse, est-ce que c'est pas dû aussi au contexte international? Parce que, bon, l'Algérie, vous disiez tout à l'heure, c'est une... Yann Bouffin disait que c'était une poudrière, c'est ça, la jeunesse. Justement, est-ce que le pouvoir algérien n'a pas peur que de cette jeunesse, qu'elle réexplose à nouveau, et avec le contexte politique actuel du printemps arabe?
Dans quel sens le mot exploser, c'est dans quel sens il faut le prendre?
Est-ce que c'est pas une obligation maintenant de vraiment apporter les réponses que demande le peuple, en fait?
Voilà, peut-être une réponse du consul d'Algérie, Mohamed Alem Malika.
Si je peux apporter un petit éclairage, je crois que les jeunes attendent à ce que les vieux leur donnent le pouvoir. Le pouvoir, il faut l'arracher.
J'ai envie de dire, comme dans d'autres pays, quoi.
Voilà, le pouvoir, il ne faut pas que cette jeunesse attende à ce qu'on lui donne le pouvoir.
Ça n'arrive jamais.
Ça ne peut pas arriver comme ça. Ce pouvoir, il faut l'arracher, bien sûr, par des méthodes légales, par des voies démocratiques surtout. Et je reviens sur la question de cette jeunesse qui est, en fin de compte, selon mes amis ici présents, une bombe à retardement. Je peux préciser...
Ou qui peut l'être.
Qui peut l'être, oui, à tout moment.
Je parlais notamment de bombe à retardement pour les militaires algériens. Oui.
C'est-à-dire la jeunesse présente une bombe à retardement pour les militaires. Pourquoi pour les militaires?
Parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir et qui n'appliquent pas de
démocratie.
Il ne
faut pas oublier une chose qui est très importante.
Rien de bouffe, hein.
Les militaires algériens... sont issus du peuple. C'est une armée d'abord de libération nationale et la majeure partie de cette armée est constituée de jeunes appelés. Ça, c'est le premier point.
Oui, ce n'est pas des mercenaires qui arrivent.
Voilà. Le second point, on a évoqué cette difficulté de la jeunesse, etc., sur le plan économique, c'est des pauvres. Je peux donner quelques éléments très importants. Au plan économique, par exemple, le pouvoir en place octroie des aides à des jeunes qui sont intéressés pour monter des entreprises, 120 000 euros chacun. Je ne sais pas si on connaît d'autres pays qui donnent ces facilités. Politiquement, on a fait une ouverture remarquable vers les associations. La loi sur la création des associations, des fondations... vers la femme, plus de 50% de sièges aux assemblées.
Il y a une entrée très importante de femmes à l'Assemblée aux dernières élections.
Aux assemblées élues sont données aux femmes. pour le social, il y a 1 million de logements par an. Et nous avons, la dame a dit, je crois que, plutôt le monsieur a dit que, aujourd'hui, si on compare ce potentiel de jeunesse par rapport aux dirigeants qui sont très vieux, je peux donner un petit indice, si vous permettez. Monsieur Bouteflika était ministre. OK, mais vous pouvez me dire à quel âge il était ministre ? Est-ce que vous avez quelqu'un qui était ministre à 23 ans ? Merci.
Oui, donc une longue carrière pour monsieur le président actuel Bouteflika. Alors c'est vrai qu'il faudrait qu'on avance au moins sur la deuxième partie. Peut-être un dernier mot avec monsieur Kenzi.
Juste, monsieur Kenzi me donne
allez-y rapidement et on va passer à la deuxième partie de l'émission sur le voyage et les relations franco-algériennes. Allez-y.
C'est surtout par rapport au, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a évoqué l'interdiction des partis islamistes.
Oui,
chez nous, on conçoit bien comme il faut que l'opposition fait partie des institutions de l'État. Les partis islamistes sont tous représentés aux assemblées.
Oui, d'accord. Mais les partis, on va dire, plus traditionnels, pas partis religieux, quoi. Ah,
si. C'est des partis religieux, le Hamas, Nahda, etc., à l'exception du parti qui a été
dissous.
Voilà.
Donc là, on parle du fils.
Donc les partis islamistes sont représentés aux assemblées élues.
Très bien.
Les deux chambres, etc. Très bien. Même au niveau départemental, wilaya, nous trouvons...
On va revenir à ces deux chambres, le discours du président François Hollande à l'occasion de son déplacement. Allez-y, M. Kenzi, juste pour conclure sur cette partie-là.
La question de la jeunesse, moi j'ai cinq choses. J'ai dit qu'un État, pour faire un bilan, l'Algérie après 50 ans, il y a cinq choses qu'il faut regarder. Un, la condition de la femme en Algérie. Deux, l'agriculture du pays.
L'autosuffisance alimentaire, quoi.
Oui, quelque chose de la... Trois, l'éducation. Quatre, les moyens de transport. Et la santé.
D'accord.
Si je fais du bilan, donc, c'est cinq. Si on prend l'éducation. L'éducation, oui, il y a la quantité. Mais la qualité, dernièrement, c'est la satisfaire. Si on prend la femme, la condition de la femme, vous avez parlé qu'il y a beaucoup de femmes élues dans le Parlement. Mais ces femmes-là, elles sont là parce qu'elles étaient obligées d'être dans une liste. Donc, si c'était librement, est-ce que les gens votent pour ces femmes? Je ne pense pas. Mais c'était fait comme ça. Ça fait partie d'une liste. Parce que j'ai entendu même une femme...
Ce qui veut dire quoi? Pour vous, la condition de la femme aurait régressé en Algérie ces dernières années? C'est ça que ça veut dire ou j'extrapole?
Oui, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, la condition de la femme, c'est pas... Parce que si on prend pas la femme au sérieux, parce que la femme, si une femme éduquée, c'est elle qui engendre une génération d'enfants bien éduqués. Donc, la condition de la femme en Algérie n'est pas encore, pour moi, à la regresser.
D'accord, on laisse venir.
Et question de l'agriculture, l'Algérie, à la regresser aussi. Si on voit la Métidia et tout ces plaines, le côté de Mohammedia et tout ça, c'est du béton. Et si on voit l'urbanisme,
l'infrastructure, la santé.
Le transport, dernièrement, c'est une bonne chose. C'est l'autoroute Est-Ouest avec les grands axes. Ça, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. La santé aussi, il y a un problème. L'Algérie.
Bon, d'accord. Donc là, un bilan plus mitigé avec M. Kenzi. On passe, si vous voulez bien, à la deuxième partie de cette émission. Donc, sur le voyage d'État du président François Hollande en Algérie, donc le 19 et 20 décembre 2012. Donc, un des moments importants de ces deux jours, évidemment, ça a été ce discours qu'il a fait devant les parlementaires algériens. Hein. Donc, devant l'ensemble des représentants politiques de ce pays. Discours qui a été d'ailleurs acclamé, si j'ai bien vu les images, je crois qu'on a tous vu les mêmes images ici, par l'ensemble des personnalités politiques présentes. Et donc, on a l'impression qu'il a répondu à certaines attentes aussi de ses représentants politiques. Et on a pu dégager à travers ce discours au moins quatre enjeux. On en parlait dans l'introduction, l'enjeu de la mémoire, on va l'aborder évidemment, celui des accords économiques, la question des visas, qui concerne évidemment la jeunesse, mais pas seulement, et le dossier du terrorisme. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de le prendre dans l'ordre. On commence par la mémoire. C'est vrai que c'était un peu une épine
dans le talon de la France. Il y a toujours ces questions-là de repentance ou pas sur le passé colonial de la France en Algérie. Et on a l'impression que le président François Hollande a su trouver les mots. Hein. Il a même évoqué la torture. Enfin, il a dit comme quoi, effectivement, la colonisation a été brutale et difficile, évidemment, pour le peuple algérien. Donc on a l'impression que cette question de la mémoire-là, elle a été traitée. Il a dit qu'il n'est pas revenu pour refaire l'histoire, mais pour dire la vérité. On a l'impression que le peuple algérien l'a entendu. Alors c'est peut-être moi cette impression que j'ai maintenant. Vous allez peut-être me dire le contraire. Et du coup, on peut tourner la page et passer à l'avenir. Si des fois c'est possible évidemment à faire. Parce qu'on imagine bien que 132 ans de colonialisme plus 8 ans de guerre, ça laisse des traces, même si c'est 50 ans après l'indépendance. Donc alors, comment vous, avez-vous ressenti cette question, cet enjeu-là hein, qui était fort? Alors c'est vrai qu'il avait préparé le terrain quand même, avec la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans les morts, enfin l'assassinat hein, de ces Algériens à Paris en 1962.
61.
Pardon. Il avait quand même balisé le terrain, on a envie de dire, déjà avant son déplacement en Algérie. Comment vous avez-vous ressenti justement ce discours-là? Et est-ce que d'après vous, effectivement, la question de la mémoire est passée? Enfin, je veux dire, on peut avancer maintenant vraiment ensemble vers l'avenir, français et algérien. Allez-y. Mais, qui veut se saisir de la question?
On parlait tout à l'heure de la jeunesse et je crois que le jeune Algérien attend avant tout aspect économique et matériel du respect. Quand on parle de la mémoire et quand on essaye de régler ce problème de mémoire et de relations, de tout ce qu'on a pu dire sur la guerre d'Algérie, sur les Algériens, sur la position de l'Algérien avant 62 et après, je crois que tout le peuple algérien et surtout la jeunesse attend un geste de respect avant tout. Qu'on les respecte.
Alors le maître mot était dignité, que, je crois, dans ce discours. Il a été répété
dignité,
nombreuses fois.
Dignité, respect, parce qu'on a l'impression, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure au début, quand on évoque la jeunesse, on évoque le problème de visa. On a l'impression que le jeune algérien attend une seule chose, qui même si nous-mêmes algériens, on l'a dit, parce que nous, en connaissance de cause, on était de l'intérieur de ces pays-là, on est toujours dans ces pays-là, même d'ici un petit peu à distance, même en France, le jeune algérien n'attend pas que cela. Il faut bien expliquer ce point-là, il faut bien l'expliquer, le détailler, que le jeune algérien n'attend pas que le visa pour quitter l'Algérie. Le jeune algérien attend qu'on le respecte, qu'on lui donne ses droits, sa liberté, et qu'on le laisse participer pleinement dans son pays. Et
donc, oui, avant de le quitter, il aimerait déjà bien vivre chez lui.
Et le quitter, ce n'est pas juste abandonner son pays.
Oui, ça peut être
aller
pour
chercher,
voyager aussi.
Hein. Aller chercher tout simplement sa liberté de bouger, de découvrir, d'apprendre. Parce qu'on n'apprend pas tout quand on reste dans un milieu clos. Donc pour apprendre, comme on a pu avoir nous la chance d'apprendre beaucoup de choses ici, en venant en France ou ailleurs dans le monde occidental ou ailleurs, c'est le jeune Algérien attend ça, attend ce point principal pour lui, c'est vraiment évoluer comme toute la jeunesse dans le monde, notamment la jeunesse occidentale.
Alors, monsieur le consul, sur cette question-là, la mémoire, est-ce que vous pensez que ce qui devait être dit a été dit et qu'on peut maintenant effectivement tourner la page et,
oui.
et partir sur de nouveaux horizons?
Concernant la question morale, j'insiste sur une chose très importante. Monsieur François Hollande connaît bien l'Algérie.
Oui, donc
pour
il a
avoir
fait son stage
été, à l'ENA. En 1978, il a déjà effectué son stage à l'ENA.
Tout à fait. Puis après, il a rencontré déjà le président Bouteflika, puis il avait rencontré le premier président de l'Algérie aussi.
Absolument. C'est la raison pour laquelle il demande à la classe politique française de réserver un regard lucide au rapport algéro-français. Ça, c'est très, très important. La repentance, si on prend ce terme de repentance, je crois qu'il est...
C'est une dimension plus morale, plus religieuse.
Religieuse presque, plutôt, ouais. C'est une... Il a une charge sémantique religieuse. Il a reconnu d'abord, avant qu'il soit président, lors des événements de la Seine.
Oui, 1961, hein, on l'a
il
dit.
Il a clairement employé la répression sanglante des manifestants.
et engager la responsabilité de l'État sur cette nuit-là. Hein.
Alger, il a reconnu également les souffrances plutôt qu'a infligé
la colonisation
aux populations algériennes. Je crois que ça mérite beaucoup de choses. Il faut s'arrêter.
Les tortures ont été évoquées.
Voilà, il faut s'arrêter à ces petites phrases, à ces petits mots et décrypter le message qu'a voulu transmettre le président Hollande.
Alors, à contrario, à l'inverse, certains lui ont reproché de ne pas aborder la question des familles de pieds noirs ou des descendants qui, pour certaines, souhaitent revenir en Algérie, ou aussi la question des harkis, qui, on le sait, reste une question épineuse, aussi les descendants, parce qu'aujourd'hui, on est souvent aussi au niveau des descendants aujourd'hui. Alors, est-ce que c'était... c'est un fait politique, c'était calculé,
oui, bien
c'était
sûr.
Pour satisfaire les autorités algériennes, on imagine.
Pour les gens qui sont derrière les calculs politiciens, etc., c'était judicieux d'évoquer ça, bien sûr. Ils veulent dire carrément président de la République. Vous êtes en train de développer un concept de la réconciliation nationale. Pourquoi ne pas intégrer les harkis? Tout simplement. Je pose la question aux Français. Quelle est la position des Français par rapport au collabo de Vichy?
Oui, c'est souvent l'argument algérien qu'on entend d'ailleurs quand on aborde cette question.
Que réserve la France officielle au collabo de Vichy? Nous avons un traitement très spécifique de cette catégorie de personnes. Parmi eux, il y a des gens qui ont fait un choix politique, un choix historique. Et parmi eux également, des gens qui ne savaient pas faire de choix carrément.
Oui, et qu'on a fait peut-être le choix à leur place.
Aujourd'hui, c'est difficile d'accepter pour cette catégorie de personnes qui sont en fin de compte délaissées de part et d'autre.
C'est ça.
Aujourd'hui,
on remarquera que la dernière visite de l'ancien président, donc avant Nicolas Sarkozy, avant François Hollande, Nicolas Sarkozy, justement, il avait reçu au lendemain de son déplacement à Alger, je crois, les familles harkis à l'Elysée. Ça avait fait un grand tollé en Algérie, justement, et ça n'avait pas contribué à améliorer les relations. Enfin, on avait ce sentiment-là, hein. Sans compter toutes les déclarations et puis cette loi qui avait été votée pour reconnaître les bienfaits de la colonisation à l'Assemblée nationale. Certes, ça n'allait pas arranger les relations. Oui, alors je voudrais passer peut-être juste après ce point de la mémoire sur les enjeux économiques. On le sait, c'est important. Il est parti avec une quarantaine de patrons, le président français. Et on comprend bien l'intérêt pour la France de pouvoir placer ses entreprises. Je crois qu'il y en a déjà au moins 450 en Algérie, des entreprises françaises, certainement des entreprises aquitaines aussi, et girondines, qui sont bien implantées là-bas, monsieur le consul.
Si vous permettez, je crois qu'il y a quelques journaux qui ont comparé, je crois, la campagne, plutôt la visite de Hollande en Algérie. Comme la campagne de Napoléon en Égypte.
Égypte, d'accord. Oui, monsieur.
Les grands dossiers de cette visite sur le plan économique, je crois, et c'est plus important de discuter sur ce problème économique que de focaliser notre préoccupation, plutôt la presse focalise surtout sa préoccupation à travers la repentance, etc., reconnaître, ne pas reconnaître.
Bon, allons mais sur le fait économique.
Il vaut mieux aller de l'avant.
Donc alors, on parle de Renault, on parle d'Alstom,
on a évoqué la jeunesse, il vaut mieux parler de l'avenir et des rapports économiques entre les deux pays.
Et même l'État français avec des contrats d'armement
aussi.
Oui,
bien sûr, bien sûr. Je crois que la France est restée, je crois, j'utilise le mot, à la traîne durant la décennie noire. L'Algérien, à cette époque, commençait à découvrir la Malaisie, la Corée du Sud, etc. Pourquoi ? Parce que les pays avec qui l'Algérie entretenait de rapports intenses sur le plan économique et commercial ont laissé l'Algérie toute seule combattre ce phénomène. L'Occident en a pris conscience quand ce phénomène a transgressé nos frontières.
A commencé à les toucher, quoi, finalement.
Voilà. Il ne faut pas oublier, dans les années 90, beaucoup de capitales occidentales ouvraient leurs bras aux terroristes. Je peux citer des noms.
On peut parler que la première victime des actes terroristes à l'Algérie sont les Algériens. De toute façon, ça a été des dizaines de milliers de victimes civiles pour la plupart.
Quand la gangrène s'est propagée, on a pris conscience et l'ampleur du phénomène.
Donc pour vous, l'enjeu économique, c'était vraiment le point important de cette visite.
Oui, bien sûr, parce que la crise économique internationale a secoué pas mal de pays. Donc en face, nous avons des pays qui sur le plan financier, se portent, la santé économique de ces pays était bonne. Donc il fallait trouver des débouchés ou désamorcer, débloquer les dossiers économiques qui étaient en suspens. Donc c'était, j'allais dire, légitime de la part des responsables français qui ont précédé la visite officielle de François Hollande. Il ne faut pas oublier que nous avons vécu pratiquement un balai diplomatique entre Alger et Paris avant la visite de monsieur François.
Et qui ont dû préparer d'ailleurs ce fameux accord, un document définissant les axes de la coopération entre la France et l'Algérie pour la période 2013-2017. Donc un document important qui a été signé à l'occasion.
À l'occasion, je crois que ce document fait suite peut-être au projet de monsieur qui est monsieur économie. Maintenant, je parle de...
On cherche le nom.
L'ancien Premier ministre français.
Ah, monsieur Raffarin.
Monsieur Raffarin, tout à fait. Voilà, ça fait
qui avait bien balayé, effectivement. Et aussi, dans cette perspective, ça, c'est quelque chose de très novateur. On le voit, c'est les relations bilatérales quand même, entre ces deux États. Les deux présidents ont voulu le placer à un niveau très important parce qu'il y a mise en place d'un comité intergouvernemental de haut niveau, présidé par les deux premiers ministres évidemment, de chaque pays. Et ce comité tiendra sa première réunion dès 2013. Donc là, on le voit vraiment un chapeau encore.
C'est dire l'importance, absolument, c'est dire l'importance des relations entre l'Algérie et la France. Premier client, premier fournisseur,
donc pour
premier
vous, la
partenaire.
France est venue placer ses entreprises, chercher les contrats, gagner un petit peu d'argent en Algérie.
Entre autres.
Hugo Hammès.
Question. C'était la vôtre.
Monsieur Kenzi, on repasse la parole. Monsieur Kenzi, vous vouliez dire un mot.
Le discours du président Hollande, c'était bien calculé, bien réfléchi. Parce que le fait de reconnaître la repentance ou reconnaître, il y a des conséquences. Parce qu'il y a eu des victimes, il y a eu les essais nucléaires, il y a des gens qui souffrent maintenant. Il y a des conséquences sur toute cette population algérienne. Je connais le sud, des conséquences à Ouadnamous. Donc s'il reconnaît ça, donc il faut indemniser ces gens-là. Donc lui, c'est un discours bien étudié. Donc nous, la jeunesse n'a pas connu ça, mais les conséquences, si on parle avec elle, même maintenant, il y a des conséquences point de vue santé.
Bien sûr.
Donc le fait de reconnaître, ça veut dire qu'il y aura derrière une réparation. Et je dis, pour conclure, pourquoi ce qui était valable avec l'Allemagne n'est pas valable avec l'Algérie?
Oui, voilà. Voilà. Merci. On parle bien de réconciliation franco-allemande. Je pense qu'on en prend le chemin avec l'Algérie. Voilà, on peut parler de nouvelles relations. Pour finir sur ces points essentiels, on a vu les accords économiques, on a vu cette histoire, cet enjeu de la mémoire. Les visas ont été abordés, mais vous, en tant que consul, les visas, ça concerne combien d'Algériens chaque année? C'est quoi? C'est 20 000 Algériens qui seraient désireux d'avoir un visa et qui souvent se disent maltraités. Et là, ils partent de mal, justement. On parlait de dignité tout à l'heure, et souvent, ils ont l'impression de la perdre en faisant ces queues innombrables,
surtout,
des délais d'attente.
Les délais d'attente en Algérie pour avoir accès à ce système de visa, et aussi pour ceux qui ont eu la chance, entre guillemets, d'avoir ce passeport et un petit peu quitter les frontières algériennes pour un petit peu explorer le monde extérieur, notamment l'Occident. Il y a aussi ils se retrouvent en face d'une situation très compliquée qui touche à sa dignité aussi. On l'a tous connu ici, hein, en tant qu'Algérien ici en France. On a beaucoup d'obstacles. Malheureusement, on se dit, tiens, les obstacles qu'on avait connus avant, on les retrouve en plus fort. Et on est complètement seul en face de cela. En face d'une société qui nous juge. Elle nous a jugés quand on était jeunes Algériens en Algérie. Et elle nous juge encore comme jeunes Algériens en France. Donc, quelque part, quel que soit le bord, on est maltraité psychologiquement par rapport à cela. Donc la jeunesse, puisqu'on a parlé de cette visite-là, elle est pour moi essentielle dans le sens où elle nous dit, voilà, allant vers le positif, allant vers l'avenir, qui va réellement reprendre les choses en main et leur donner des vraies couleurs d'échange et
ça serait bien d'aborder la
partenariat.
Question du terrorisme quand même aussi, parce qu'il y a des points de vue différents entre la France et l'Algérie. Mais monsieur le consul, est-ce que vous pensez que cette question des visas, grâce au déplacement à la visite du chef d'État, la visite d'État du président François Hollande, va évoluer favorablement pour les Algériens désireux de venir?
Permettez-moi de revenir un petit peu à l'histoire. Les années 40, la France désirait une immigration intelligente. Elle avait besoin de main-d'œuvre. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le même contexte, mais également, elle a besoin d'une main-d'œuvre docile, moins revendicatrice, moins syndiquée, etc. L'Algérie était dans une position fragile quand elle a commencé à négocier l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc, nos voisins en négocié à part cet accord, l'Algérie, bien après, a pu trouver les issues nécessaires qui cadrent avec sa politique. Il ne faut pas oublier une chose très importante. La France délivre des visas Schengen, pas des visas territorialement français. Donc, elle est soumise également à certaines recommandations de la Commission européenne. Ça, c'est le premier
point. Oui, on a vu une déclaration de M. Schulz, d'ailleurs, qui parlait de ces délivrances de visas qui devraient être facilitées.
Schengen, c'est-à-dire si un Algérien qui est intéressé par le marché français, etc., souhaiterait venir en France, il suffit d'un nom d'un pays comme le Luxembourg, qui n'a rien à voir avec un demandeur
il
de visa
algérien, en France.
Qui peut venir en France. Si le Luxembourg oppose son veto, ce demandeur de visa n'aura pas son visa. C'est malheureux de dire ça. Par exemple, quelles sont les relations entre l'Algérie et les pays scandinaves? Si un pays de la Scandinavie qui fait partie de l'Union européenne formule son niette, le demandeur de visa n'aura jamais son visa. Les problèmes aussi des visas, c'est la dimension humaine qui pose problème. Si on arrive à débloquer ce fameux fardeau entre l'Algérie et la France concernant la dimension humaine, c'est-à-dire les visas, on peut, je crois, on peut faire une avancée remarquable dans nos relations commerciales et économiques.
Bon, très bien. Alors, sur le terrorisme, on sait qu'il y a un désaccord de point de vue entre le président français et le président algérien. L'un souhaiterait une intervention dans le nord du Mali, notamment, parce que c'est vrai que cette question-là du terrorisme, maintenant, on parlait des pays limitrophes, on le sait, avec ces événements au Mali, et la présence de terroristes, de groupes terroristes. Alors, François Hollande, lui, souhaiterait une intervention et le président Bouteflika, lui, il serait plutôt contre cette intervention, pensant certainement que s'il y a intervention militaire, il y a beaucoup de personnes impliquées dans ces actes terroristes qui vont remonter en Algérie. C'est ça la crainte, en fait?
Non, je peux ajouter quelques éléments très importants. D'abord, le contexte actuel de l'ACMI provoque une déstabilisation de toute la région allant de la Libye.
On retrouve des Algériens dans ce groupe-là.
Oui, bien sûr. Oui. C'est une multinationale de terroristes.
Bien sûr.
J'ai dit que le contexte actuel qui prévaut dans la région qui va de la Libye jusqu'à la Mauritanie, c'est un territoire très vaste. Il faut des moyens énormes. C'est une organisation tentaculaire. L'Algérie connaît bien la région. Donc il n'y a pas que l'ACMI, il n'y a pas que le phénomène terroriste. Bien sûr, il y a des problèmes d'ordre ethnique. Je pense surtout au mouvement Azawad, qui agit aussi bien au Niger, au Mali, en Algérie.
Qui est très mobile, hein.
Voilà, la mobilité de ce phénomène. Autre chose, nous avons privilégié toujours le dialogue pour résoudre les conflits. Aujourd'hui, j'ai lu dans la presse que l'OTAN est contre une intervention militaire.
C'est vrai qu'elle était encore à l'étude il y a une quinzaine de jours, même à Bruxelles, mais bon.
Oui. L'Algérie aussi a demandé à tous les pays qui avaient des otages dans la région de ne pas se soumettre à la politique des rançons. Malheureusement, plusieurs pays occidentaux n'ont pas respecté la règle.
Oui, parce que tant qu'on paye, évidemment.
Et chacun négocie
ça veut dire
à sa manière.
Ça veut dire qu'un otage a un poids économique. Un otage, ça vaut tant, quoi, en fait.
Oui,
quoi,
les otages...
Donc, tant qu'on continue à payer les rançons, il y aura toujours les otages.
Les otages, s'ils sont touristes, je crois que c'est le rôle de l'État. S'ils sont fonctionnaires des entreprises nationales françaises, autrichiennes et autres allemandes, etc.
Ça, c'est les assurances, alors, dans ce cas-là?
Bien sûr, ce sont les assurances. Et souvent, quand ils demandent des visas, je crois que la région n'est pas recommandée. Par exemple, en Algérie, on a demandé à chaque fois, quand il y a un demandeur de visa, quel serait son périple et quels seraient les points où il se déplace. Le sud, c'est un territoire,
donc, monsieur,
je ne dis pas incontrôlable, mais qui pose problème, surtout en dehors de nos frontières.
Juste pour finir, je vois qu'on arrive au terme de l'émission, il va falloir conclure. Alors, vous allez avoir un mot de conclusion chacun, mais peut-être dernière question. Est-ce que vous savez, effectivement, si dans le cadre des discours, des conversations entre les deux présidents, est-ce qu'ils ont pu avancer ensemble sur peut-être un point de vue plus commun sur cette question-là du terrorisme dans le sud de l'Algérie?
Pas de fuite ou...
En attendant des fuites.
Bon,
oui. En attendant des fuites.
Bon, en tout cas, on vous remercie. Voilà, bon, peut-être, mes chers collègues, vous êtes frustrés. C'est vrai, ça passe très vite, une heure. Surtout sur un sujet aussi vaste que les 50 ans d'indépendance de l'Algérie, la visite du président français, le voyage d'État plutôt du président français en Algérie. On vous remercie, invités d'avoir répondu à cette invitation. Vous laisse le mot de la fin, monsieur Alain.
Vous nous donnez
Alain.
Un petit mot pour vous dire grand merci à vous. Cela nous a permis de connaître les préoccupations de la presse locale girondine. Et si je reviens sur le cinquantenaire entre l'Algérie et la France, les grands tirages, les grands journaux de grands tirages, etc., n'ont réservé aucune ligne à cet anniversaire, dans notamment le Sud-Ouest. Ce journal, quand il y a problème, c'est dans les premières manchettes. Mais quand il y a des événements heureux...
Alors heureusement, monsieur le consul Algérie, Sud-Ouest, on a commencé cette émission Les 4 médias il y a 3 ans déjà, et Sud-Ouest faisait partie des 4 médias. Bon, et cette année, il n'en fait plus partie, il a été remplacé par le courrier français de la Gironde. Voilà, donc Sud-Ouest n'est pas parmi nous, mais on les salue s'ils nous écoutent quand même, et j'espère qu'ils vous auront entendu. Un petit mot de conclusion, messieurs, monsieur Kenzi, monsieur Chetab, très rapidement, on est obligé de rendre l'antenne. Merci en tout cas d'être venu.
Je vous remercie de l'invitation. Et cet échange fructueux qu'on a échangé avec toutes les personnes autour de ce plateau-là. Et je dis que notre association
QAB
organise des portes ouvertes sur l'Algérie donc, au mois de mars. Donc c'est sur le domaine de société, domaine politique et un sujet très brûlant ou d'actualité, c'est le printemps arabe, entre guillemets, qu'on va débattre avec les enseignants.
Très bien. Si vous voulez plus de renseignements, vous tapez QAB, oui, CU2AB, oui, pour le Cercle des universitaires artistes algériens de Bordeaux, sur un moteur de recherche, et on tombe directement sur votre site. Il y a tous les renseignements. On remercie M. Kenzi. Le mot de la fin aussi, M. Chetab, pour l'association d'une culture à l'autre, président de l'association.
Mais merci pour cette invitation-là. C'est vrai que c'est des lieux d'échange très, très, très riches. Donc, malheureusement, une heure ne suffit pas pour aborder tous les sujets. Surtout, c'est des sujets très riches, très larges. Donc, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. L'association d'une culture à l'autre, c'est une jeune association qui va cibler son travail, entre autres, mais qui va cibler les problématiques de la jeunesse, pas pour trouver des solutions, mais juste aborder réellement ces problèmes-là, donner la voix à la jeunesse et aussi dire à tous nos compatriotes, surtout algériens ici à Bordeaux, dans le Sud-Ouest, qu'il y a des associations, il y a des groupes, des gens qui travaillent dans ce sens-là. Venez vers nous. Nous, on attend que leur participation.
Pour plus d'informations, contact M. Cheta peut-être.
Le contact de notre association, on a un site internet qui s'appelle duneculturealautre.com sur Google, la première page, donc on le trouve facilement, c'est en un seul mot. On a déjà fait une action au mois de novembre en partenariat avec le consulat, avec les encouragements de monsieur le consul ici présent, qui nous a donné la chance de participer à cette fête d'anniversaire du 50e d'Algérie, au Rocher Palmer, et pas loin, ici.
Oui, tout à fait. On avait une programmation très algérienne.
De novembre. Le 4 juillet, donc, c'était une soirée pour marquer le coup et pour dire que, voilà, on y travaille dans ce sens-là et on y travaillera. Et voilà. Merci
beaucoup.
Merci à vous.
On
aura l'occasion, j'espère, de reparler de toutes ces choses-là. Voilà.
Merci encore. Merci à vous, monsieur le consul. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Au revoir et à très bientôt.
Merci d'avoir écouté cette émission sur Odo Radio, une émission réalisée dans le cadre du projet Onde du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur notre site internet www.odoradio.net, onglet FEI.